Voilà, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Merci de votre patience. Je vous présente les trois invités, enfin pour le moment deux invités à cette rencontre, de l'auteur genevoise Olivier Guéric pour Impasse Khmer. C'est un petit livre précieux qui est paru aux éditions Encre Fraîche. C'est, ce fera de ma part, votre deuxième roman qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le premier. Bonjour.
Bonjour.
Chez Olivier Moratel, un premier roman de Florian Séguesser, Point de suture. Et puis, nous attendons Axel Kahn, on dit qu'on le cherche quelque part dans ce festival, pour, chez Stock, cet essai qui commence par un conte philosophique qui a pour titre « Être humain pleinement ». Olivier Guéric, je voulais dire en vous accueillant tout à l'heure, le sentiment très fort qu'on a, c'est valable d'ailleurs aussi pour Florian Séguesser, c'est que vous avez l'un et l'autre d'abord un ardent besoin ou un ardent désir d'écrire, et qu'ensuite, ce que vous nous narrez dans votre livre, Impasse Khmer, est une aventure que vous avez sans doute en partie vécue. Salut l'arrivée d'Alex Axel Kahn. Non, c'était au 30, mais ça n'est pas grave, Axel Kahn.
Désolé.
Bonjour.
Parlez-nous de... Dites-nous comment s'est imposé, Olivier Guéric, le titre de votre livre.
C'est en me rendant au Cambodge, donc c'est suite à ce voyage au Cambodge pour une organisation humanitaire.
Pour Handicap International, voilà, c'est ça.
Exactement. Oui. J'ai ressenti le besoin d'écrire le livre, et c'est la situation du Cambodge au moment où j'étais sur place qui m'a fait ressentir cette sensation d'impasse, que le pays était dans une impasse et qu'il l'était déjà de par le passé. Et c'est aussi par rapport à la très forte présence du karma dans la culture cambodgienne qui referme un petit peu les routes, les possibilités des gens. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Mais finalement, ce n'est pas vraiment une impasse. Si on lit mon livre, voilà, c'est...
Alors pourquoi ce titre, Impasse Khmer? Vous auriez pu en prendre un autre plus...
Ça s'est imposé à moi.
Ouais.
Mais ça s'était imposé d'abord en anglais, mais comme j'écris en français, c'était un no-go. Vraiment l'impasse cambodgienne, en fait.
Le choix d'aller travailler au Cambodge pour Handicap International, cet engagement de votre part?
Ben, en fait, j'ai pas vraiment... J'étais pour recueillir des témoignages, parce que je travaille dans la communication, donc j'ai rendu visite à des victimes de bombes à sous-munitions et de mines antipersonnelles dans différents pays d'Asie du Sud-Est, en fait. Et je devais recueillir leurs témoignages. Donc c'était une première mission, et j'y suis retournée une deuxième fois pour revoir les mêmes personnes et puis voir comment leur situation avait changé, et aussi pour relater les activités de l'ONG sur place.
Et ce qu'on retrouve dans votre livre, c'est en particulier votre rencontre, enfin la rencontre de la narratrice, à tout de moins, Julia, avec une famille khmer.
Tout à fait, oui. Et c'est le destin de cette famille qui est la plus grande partie du livre. Donc il y a un peu du passé, du présent, de la tradition, de la culture, et aussi cette jeune femme qui va au Cambodge un peu désespérée de sa situation à Genève, et qui se voit confrontée avec un pays qui est très émouvant, avec une population très touchante.
Il y a cette phrase dans votre livre, « Il n'y a pas d'ailleurs où guérir d'ici ».
Tout à fait. Parce qu'elle part justement, parce qu'elle pense qu'ailleurs ça ira mieux.
Oui.
Quelque part, oui. Parce que ça nous apprend quand même à découvrir d'autres choses, à relativiser notre propre malheur. Voilà, c'est un peu aussi l'idée du livre.
Florian Séguesser. Donc votre titre, c'est « Point de suture ». Vous auriez pu y mettre un G, vous y avez mis un T.
Oui, parce que le titre a un double sens. J'aimais jouer sur cet aspect-là, « Point de suture » ou « Pas de suture ».
C'est l'histoire de deux frères.
De deux frères qui sont séparés lors du divorce de leurs parents. Ils ont 8 et 13 ans et... Chaque parent va rester avec un enfant, et ils vont se retrouver en raison de certaines circonstances, ils vont se retrouver 25 ans plus tard, et ils vont essayer de retisser les liens fraternels qui ont été déchirés.
Ce sont deux frères, donc il y a Rémi et Auguste.
Arthur,
ouais. L'un est écrivain.
L'un devient écrivain, l'autre devient artiste peintre et photographe. Et oui. ils vont essayer de retisser leur lien, notamment au travers de l'art et de la création artistique, développer leur propre langage.
J'empruntais tout à l'heure, en attendant Axel Kahn, une expression de son livre, Être humain pleinement, cet ardent désir, besoin d'écrire, dont on parlera avec vous, Axel Kahn, dans un instant. Il y a aussi ça chez vous?
Oui, mais parce que je pense que la littérature, et j'imagine que c'est la même chose pour Olivia, peut-être Axel aussi, il faut que ça soit un désir profond, il faut que ça soit une envie profonde, et moi, quand je fais les choses, je suis surtout le cours de mes envies. Je me projette pas trop, j'y vais peut-être instinctivement aussi, mais j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire.
Pour vous avoir lu, le sentiment qu'on éprouve comme lecteur, c'est que d'une certaine manière, avec ce livre, par rapport à vous-même ou par rapport à d'autres, d'une certaine manière, je pèse mes mots, vous vous délivrez de quelque chose.
Oui, d'une certaine manière, évidemment. Mais je pense aussi, c'est parce que si on écrit, c'est qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, qu'on n'arrive peut-être pas à exprimer oralement ou d'une autre manière que par l'écrit. Moi, je sais que l'écriture est le meilleur moyen pour moi pour communiquer ce que je ressens ou ce que j'ai sur le cœur. Donc, le désir vient de là.
Cette histoire, vous la portiez en vous depuis longtemps?
Oui, mais après, depuis longtemps, j'écris ou je griffonne quelques phrases comme ça. Et oui. C'est vrai que c'est un jour, l'histoire était là. C'est aussi une question d'accomplissement personnel, de chemin qu'on parcourt, d'événements qu'on traverse, d'étapes qu'on franchit, d'expériences qu'on acquiert aussi. Et puis, quand je suis arrivé à une certaine maturité sur... Le livre arrive, voilà.
Ok. Axel Kahn, généticien, chercheur, marcheur, essayiste. Vous avez choisi la forme de ce qu'on pourrait considérer comme un conte philosophique pour délivrer un message qui nous concerne tous, être humain pleinement. Alors, on verra plus tard ce que vous en dites dans ce livre qui a grandi la vie. Pour aller vite, qu'est-ce qui a motivé le titre même de ce livre, Être humain pleinement? C'est une histoire là aussi très personnelle.
Oui, très personnelle. Le 17 avril 1970, mon papa prend le train à la gare Saint-Lazare à Paris et à hauteur de Mantes-la-Jolie, le train étant en pleine vitesse, il s'en jette, il est tué sur le coup. Et sur le siège qu'il a quitté, dans le compartiment où il était, la gendarmerie trouve une lettre à Axel. Et donc la gendarmerie me remet cette lettre.
À l'époque, vous étiez jeune médecin.
Jeune médecin, j'avais 26 ans.
26 ans.
Et cette lettre se termine par l'injonction « Sois raisonnable et humain ». Je ne vais pas rentrer dans le détail des questions au-delà du désespoir, des questions qui ont été soulevées. Par cela, pourquoi moi, j'étais le plus jeune des trois frères.
Oui.
Est-ce qu'ils craignaient que je ne le fusse pas, autrement? Donc un doute redoutable. Et durant toute ma vie, à partir de ce moment-là, c'en est l'élément le plus significatif, j'ai tenté de répondre à la question « Mais qu'est-ce que Jean Kahn, mon papa ?» a bien pu vouloir m'en joindre par là. Et donc, quand vous regardez les titres de mes livres, il y en a un certain nombre, on voit évidemment cette préoccupation. Et puis, j'avais décidé que je mettrais à profit, vous parliez de la marche, deux grandes marches que j'ai réalisées sur à peu près un peu plus de 4000 kilomètres. La marche solitaire, son incroyable disponibilité au développement de la pensée, pour mettre un point final à cette quête de ce que c'était qu'être humain que nous partagions, qui méritait d'être défendu lorsque l'on s'engageait dans la réflexion éthique. Et voilà, considérer que ce livre, puisque mon papa était professeur de philosophie, considérer que ce livre, c'est avec retard, j'ai pris le temps, la copie que je lui rends, au devoir qu'il m'a donné il y a 46 ans de cela. Écoute, papa, ça a été un peu long, je reconnais, mais ce n'était pas facile. Il faut reconnaître que c'était un peu ambigu. Je ne sais pas ce que tu as voulu me dire, je n'ai pas totalement compris le sens de l'énoncé, mais en tout cas, ma réponse, c'est cela.
Parce que cette injonction vous a habité durant toute votre vie.
Oui, quand vous regardez les différentes phases, outre mon travail de chercheur qui a sa propre légitimité et sa propre autonomie, lorsque je me suis engagé, je suis connu notamment en Suisse un peu pour cela, puisque j'ai beaucoup participé à la réflexion dans votre pays à ces sujets, pour mes réflexions, mes participations à des comités d'éthique nationaux et internationaux. Pour moi, l'éthique, c'est en quoi les nouveaux pouvoirs découlant de la science, de la connaissance, peuvent-ils attenter à ce qu'il y a d'humain en nous et qui mérite d'être protégé. Mais pour répondre à cette question, il faut que l'on soit clair sur ce qu'il y a d'humain en nous. Quand je me suis intéressé à une question d'économie, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'homme, le libéraliste, le bien commun », c'est parce que je suis convaincu depuis longtemps que la citation de Marx a un côté de vrai. Il a dit « L'homme, c'est la société de l'homme », s'il n'a pas totalement raison, car la société de l'homme, c'est également la somme des hommes individuels. Et donc, tout ce qui fait société fait également humanité. Il n'y a pas d'homme seul. L'humanité se conçoit uniquement au pluriel. Or, ce qui fait société sont les échanges. Échanges de paroles, échanges de symboles, échanges d'émotions à travers l'émotion partagée, par exemple, vis-à-vis de la beauté, mais évidemment, échanges de biens. Et donc, cette recherche de ce qui fait l'humanité exigeait que je fisse un détour par l'histoire de la pensée sur l'échange des biens à travers les temps, etc., etc. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, le fil directeur d'une pensée durant 46 ans.
Qu'est-ce qui vous avait, pour ainsi dire, convaincu ou jeté sur les routes à deux reprises, deux fois 2000 kilomètres à pied ?
D'abord, c'est le fait que, en fait, je marche depuis que je suis tout petit garçon. J'ai été élevé par une paysanne très, très pauvre pendant les 5 premières années de ma vie. Et comme sa pauvreté ne lui permettait pas d'avoir d'autres moyens de transport, dès qu'elle m'a fait quitter la poussette, j'ai suivi le mouvement quand elle allait à des noces ou à des invitations dans des villages aux alentours, en trottinant derrière tout le monde. Quand mes parents m'ont récupéré à Paris, j'étais un petit paysan impossible à tenir, alors ils m'ont bien vite mis au louveteau, puis après j'ai été scout, et puis après j'ai jamais arrêté. Et la marche a toujours été pour moi le moyen le plus significatif de passer mes moments de congé.
Parce que la marche, c'est « je est un autre ».
La marche, alors je rigole un peu en disant que j'ai été président de l'université Paris-Descartes. Paris-Descartes a dit « je pense donc je suis ». Or, et je le décris longuement dans ce livre, il n'y a pas d'activité plus propice à la pensée que la marche. Donc je marche donc je pense, je marche donc je suis.
Et vous avez beaucoup marché.
Et j'ai beaucoup marché. Ouais. Et donc, lorsque j'en ai eu la possibilité, d'abord j'ai lu dans les années 70, peut-être début des années 80 pour moi, un livre magnifique qui reste extraordinaire, qui est « Chemin faisant » de Jacques Lacarrière. Il avait passionné le marcheur invétéré que j'étais. Je m'étais promis un jour de mettre mes pas dans ceux de Jacques Lacarrière. Il y a cela, et puis il y a également un autre épisode qui m'avait beaucoup marqué. Au cours d'une de mes nombreuses marches, je me trouvais avec des amis par un très mauvais temps sur une crête du Massif Central à 1400 mètres d'altitude dans le brouillard. Je cheminais sur cette crête en tête lorsque je vois une forme allongée sur le sol, un peu scintillante dans le brouillard. C'était singulier, je m'en approche. C'était un très 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 vieux monsieur qui était là, allongé sur le sol, enveloppé dans une couverture de survie. Il s'était fait prendre par le mauvais temps la veille au soir. Il y avait à côté de lui les deux cannes anglaises sans l'aide desquelles il ne pouvait pas se déplacer. Et évidemment, vous pensez bien, on l'a réconforté, on a mis sacs à terre, on lui a fait bouillir de l'eau, du café très sucré, des biscuits. Et après, je lui ai posé une question d'une bêtise infamante, je reconnais. Je lui ai dit, mais écoutez, tout de même, monsieur, qu'est-ce qu'un homme dans votre état peut-il bien faire
en un tel endroit, par un tel temps. Alors l'homme s'est soulevé avec ses cannes, il m'a regardé, l'air réprobateur vraiment, il m'a dit « Et quoi, monsieur ? Vous voudriez peut-être que je sois à l'hospice, à quémander après le bassin, le pistolet ? Vous savez, monsieur, chacun choisit sa vie. » Et moi, je sortais de fonctions officielles multiples et variées, et personne n'attendait que je devinsse un cheminot, comme dit Jacques Lacarrière. Et donc je me suis dit, si je deviens un cheminot et si j'exauce ce vœu très ancien de mettre mes pas dans ceux de Jacques Lacarrière, eh bien moi aussi, même si je ne suis pas dans l'état de ce vieil homme du Puy de Sancy, moi aussi je choisirai ma vie.
Olivier Guérig, je rebondis sur ce que vient de dire Axel Kahn, chacun choisit sa vie. C'est ce qu'il y a aussi dans votre livre.
Oui, c'est la conclusion à laquelle j'arrive après le terme de toute l'histoire, en fait.
Oui.
Parce que justement, à cause du karma, au Cambodge, on ne choisit pas vraiment sa vie. Il y a une acceptation de la fatalité, du malheur, qui est induite par l'idée de naître avec un bon ou un mauvais karma, en fait. Et on ne peut rien changer, presque rien à cette condition. Et donc, le personnage de mon livre arrive à faire passer le message comme quoi, quand on a envie de changer les choses, on peut, en fait, si on a l'espoir et la volonté de changer.
Comment votre personnage entre en relation, disons, avec la famille cambodgienne, la famille Sok?
C'est un peu spécial, parce qu'il y a plusieurs personnages, donc
oui.
Il y a plusieurs caractères qui... Il y a un personnage un peu évanescent qui fait partie de cette famille. Elle va aller rencontrer un témoin des événements de l'époque Khmer Rouge, qui va lui raconter son histoire. Et c'est ainsi qu'elle va rencontrer un des personnages de la famille Sok. Et il y a un autre personnage de la même famille qu'elle rencontre, mais sans le savoir. Et un autre encore. Mais celui-là, c'est un peu un personnage un peu spécial.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'est plus vraiment de ce monde.
Oui. Il est où ?
Il est dans le...
Pour vous, en tout cas.
Il est dans le ventilateur. Non. Il est dans l'autre monde. Il est dans l'au-delà.
Oui.
Mais il est encore... Il est coincé entre... l'état de présence physique et l'état d'esprit, on va dire ça comme ça.
Comme votre livre est un roman, enfin c'est ainsi qu'il s'intitule en tout cas, qu'il part de romanesque et qu'il part d'observations vécues que vous avez, vous, vécues.
Ben c'est surtout, en fait, c'est par rapport aux besoins d'écriture.
Oui.
Ce que je voulais faire passer, c'est vraiment ce ressenti de ce que des impressions que j'ai eues quand je suis allée au Cambodge par rapport à cette population qui m'a extrêmement touchée. Donc le silence des gens par rapport à une tragédie, la résilience aussi, en fait, par rapport à une tragédie. Il y a énormément de choses qui sont donc de mon ressenti, de ce que j'ai pu voir. Je ne connais pas assez bien le Cambodge, donc je me suis quand même renseignée après aussi au niveau historique, parce que puis j'avais pas la prétention en y étant allée, parce que j'y suis allée 3 mois en tout à peu près, de connaître très très bien le Cambodge. Mais c'est vraiment de faire passer ce message de mon ressenti, de mon vécu. Donc il y a une partie autobiographique,
oui.
Aussi dans le personnage principal, il y a certaines choses qui sont vraies. Donc les gens qui me connaissent savent quelles parties sont vraiment réelles ou pas.
Vos deux personnages, Florian Séguessère en particulier, parce qu'il y en a d'autres, mais en particulier vos deux frères, donc c'est pareil comme vous le disiez tout à l'heure, ils choisissent librement leur vie, ils la font librement, ou est-ce qu'il y a un poids parce que l'autre est absent, parce que l'autre, quelque part, malgré tout, manque ?
Mais le manque est clair. Il y a cette absence qui pèse pendant des années. Ils ont aussi leur caractère qui fait qu'ils ont chacun fait leur vie de leur côté et peut-être pas eu le courage aussi de prendre contact plus tôt. Une certaine part d'orgueil aussi peut-être. Et il faut que finalement certains événements leur forcent la main, mais ils ont, à ce moment-là, ils ont toujours le choix de vraiment de se rapprocher ou non, d'essayer de se rapprocher ou pas, et c'est ça qui m'intéressait dans ce livre aussi, c'est de le thème de la fraternité m'est cher, le thème des relations humaines en général, et je trouve qu'on vit une époque où avec le développement des technologies, tous les réseaux sociaux, je suis le premier à les utiliser énormément, mais on a une tendance, un glissement à comment dire, où les relations se dématérialisent petit à petit, où on a un risque de se retrouver enfermé en fait dans des relations virtuelles et plus aller au contact des gens, notamment sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'il y a des personnes qui interagissent très facilement, où le rapport est facile et beaucoup plus dur dans la vie réelle. Et tout ceci, disons, ce sont des thèmes, des questions qui m'interpellent, et ça a pris forme comme ceci dans le roman, dans cette relation entre les deux frères qui, malgré l'évolution, leur propre évolution, leur propre chemin, la propre évolution du monde, n'ont pas réussi à conserver les liens, et il a fallu un événement pour qu'ils soient et tout, donc qu'on leur force un peu la main, quoi.
L'un vit aux États-Unis et l'autre en Europe.
Exactement, c'était un choix parce que l'un fait sa vie à New York, l'autre à Paris. Ce choix s'est imposé parce que, premièrement, c'est deux villes que j'aime, que j'ai arpentées, qui ont nourri mon imaginaire. Deuxièmement, pour symboliser la séparation, le fait de mettre l'océan Atlantique au milieu me parlait, parce que ça mettait, plus la distance géographique était grande, plus je me disais que c'était plus simple, entre guillemets, pour les personnages de pas se voir ou de pas faire l'effort. Or, on peut être absent aussi si on vit dans le même pays. On peut vivre séparé même si les kilomètres sont pas énormes. Mais là, c'était une manière de symboliser encore de manière plus frontale cette séparation.
Être humain pleinement, de quoi parle votre livre, Axel Kahn, de l'humanité, de ce qui en facilite l'épanouissement, de ce qui, vous le disiez, la menace. C'est une intense réflexion sur le sens et sur les âges de la vie aussi, sur ce qui devrait nous conduire précisément à être humain pleinement. Là, il y a deux frères. Dans votre conte, il y a un conte philosophique à l'origine même de ce livre. C'est l'histoire de deux sœurs jumelles du côté de Bornéo. Que leur arrive-t-il elles sont magnifiques. À 6 mois, il y a un incendie. Et cet incendie, une des sœurs, Dewi, va être sauvée. Le père des jumelles va essayer de sauver l'autre petite fille qui s'appelle Eka. Ce père va d'ailleurs mourir dans ce sauvetage. Et finalement, cet enfant, entre guillemets, disparaît. On ne la retrouve pas.
En effet, le père a réussi à sauver du brasier qui est devenu infernal sa fille, après avoir préservé sa femme, Purvanti, et sa première fille, Dewi. Mais il est gravement brûlé, il saute sur l'arrière de la maison en défonçant la moustiquaire grillagée. Il s'effondre. Et le bébé, enveloppé dans des couvertures protectrices, pleure, évidemment. La fin, j'imagine. Et une maman orang-outan du parc national principal où sont les orang-outans, tout proche de l'endroit où se passe le drame, est désemparée par l'incendie, mais également parce que les mamelles gonflées de lait, elle a perdu son petit la veille, mangé par un léopard de Bornéo qui en sont très friands. Elle entend ses cris, elle prend l'enfant et elle l'emporte avec elle dans les nids où résident les orang-outans. Et ainsi, cette fille, Eka, vivra 10 ans comme une enfant sauvage avant qu'une épouvantable campagne de déforestation pour planter à la place du palmier à huile amène à
l'huile
disperser.
De palme. Oui.
Voilà, ouais. C'est des palmiers à huile donc, ouais. Pour faire de l'huile de palme. Ne disperse le groupe d'orang-outans et évidemment Eka, et quoi qu'elle monte bien aux arbres, vous l'imaginez, est moins habile et retrouvée à ce moment-là
rencontre la civilisation, mais elle a un retard mental qui est irréversible et son destin est très malheureux. D'ailleurs, dans un premier temps, des Wiyeka vivent à quelques kilomètres l'une de l'autre, mais dans des univers différents. L'une vit dans l'univers de l'humanité et l'autre vit dans l'univers de l'animalité. Et évidemment, il s'agit de deux univers qui sont, pour ces enfants et à cet âge-là, largement infranchissables. Et autant on peut, secondairement, traverser l'Atlantique pour se retrouver, la séparation qui a isolé des oui et Eka, elle, est irréversible. Et j'explique pourquoi. J'explique pourquoi le retard mental d'Eka est irréversible. J'explique comment Dewi a pu acquérir les outils qu'elle va utiliser ensuite pour oser vouloir, choisir sa vie et pour tracer le chemin de sa vie. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, effectivement, c'est la partie la plus importante. J'essaye, à travers mon expérience, ce que j'en imagine, j'essaye d'envisager tout ce qui m'apparaît nécessaire et essentiel pour oser vouloir tracer le sillon d'une vie brillante et épanouie, pleinement humaine. Donc vous voyez, ce genre littéraire un peu nouveau, parce que ça n'est pas une introduction romancée qui se poursuit par un essai. Il y a bien une introduction romancée, mais mes héroïnes n'abandonnent jamais l'essai. Elles le traversent. Et en fin de compte, l'épilogue, dont on ne dira rien, bien entendu, l'épilogue revient totalement à la forme romanesque. On peut dire tout de même qu'il y a un rapport avec votre livre, ce que j'en ai appris en vous écoutant, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de rencontre différée, dans des conditions particulières, puisque Eka est morte depuis longtemps.
Dans ce conte philosophique, comment s'est imposée l'idée même, le choix de l'histoire de ces deux petites jumelles?
Tout d'abord, c'est le thème de cette rencontre.
L'inné
et l'acquis. C'est extrêmement important, bien entendu. Et je voulais illustrer de manière tout à fait frappante une évidence qui est ce que l'on doit retenir de l'intervention dans ce que nous sommes, des déterminismes innés et de ce que nous acquérons. En disant, ce n'est pas une pirouette, c'est vrai, en disant que la question ne se pose pas ainsi, puisque la propriété innée la plus éminente de l'humanité, c'est la capacité d'acquérir. Et je voulais illustrer que Dewi aura une vie fantastique, elle sera prix Nobel de physiologie et de médecine. Ce sera l'une des femmes les plus brillantes de sa génération.
Elle travaille d'ailleurs ici, presque à l'EPFL, au CERN.
Elle a choisi de travailler à l'EPFL.
Oui.
Vous voyez quels sont mes liens avec la Suisse. Voilà.
Oui. Elle fait des découvertes extrêmement importantes.
Elle fait des découvertes. Elle arrive à provoquer la régénération des cellules nerveuses,
oui,
de telle sorte qu'on ait une perspective de guérison, à la fois des tétraplégies et paraplégies après section de la moelle, mais aussi, je reviens à mon vieil homme du puits de Sancy, mais aussi des séquelles d'accidents vasculaires cérébrales, mais dans une certaine mesure, des maladies neurodégénératives et même prévenir les affaiblissements cognitifs liés au vieillissement. Donc vous voyez que ça mérite, vous voyez que ça mérite vraiment d'avoir le prix Nobel. Si Dewi avait un génome de chimpanzé, elle n'aurait pas eu le prix Nobel.
Alors que les deux filles ont génome.
Voilà, elles ont le même génome. Mais je reviens à l'inné et l'acquis. Si Dewi avait un génome de chimpanzé, elle ne serait pas prix Nobel. Donc l'inné est extrêmement important. Le fait qu'elle ait un génome humain, c'est évidemment inné. C'est fondamental. Maintenant, Eka a un génome humain, le même que Dewi, le prix Nobel, exactement le même. Mais ce génome, parce qu'il lui donnait la capacité de développer un psychisme humain dans l'interaction d'une communauté humaine, mais elle n'est justement pas dans une communauté humaine, la séparation entre un monde animal et un monde humain. Et donc, ces capacités qu'elle a, le support cellulaire et les circuits neuronaux lui permettant de se développer, de développer un psychisme humain, n'étant pas stimulés, vont simplement dégénérer, mais physiquement dégénérer, on le sait, ça se passe réellement comme cela.
Et on voit très bien qu'elle avait la capacité d'acquérir, mais elle n'avait pas la matière à acquérir. Et donc, nous sommes totalement et innés et acquis.
Oui, parce que sitôt après la déforestation, on va s'occuper sur place de Eka. Elle va être dans une, comment on appelle, dans une école, dans une classe. On
oui,
va
essayer... dans une institution pour retarder mentaux, en c'est réalité. Ça. Voilà.
Et qu'est-ce qu'elle acquiert ? Qu'est-ce qu'elle parvient à acquérir ?
Alors, quand on la trouve à 10 ans, vous imaginez, c'est une grande fille au grand, très belle, avec ses yeux vert émeraude, ses yeux en amande, sa peau très mate. Mais elle est totalement effrayée, elle ne parle pas, bien entendu. On lui fait des tests psychométriques et rapidement on voit qu'elle a un âge mental de 2-3 ans. On arrivera tout de même à la faire progresser. On apprendra à lui apprendre à parler, mais jamais à écrire ni à lire. Son âge mental n'arrivera jamais à dépasser 3-4 ans. Ça, ce que je vous dis là, ça n'est pas romanesque, car c'est ce que l'on sait des quelques observations de qualité que l'on a d'enfants sauvages, qui ne correspondent pas exactement au scénario que j'ai retenu. Et donc, j'ai choisi cette situation parce que, évidemment, ça illustre, sans que j'aie besoin d'en parler très longuement, ces notions de l'apport, de l'inné et de l'acquis. Et puis, ensuite, il faut bien voir que ce cas d'Ewis qu'elle a développé dans cette interaction, dans cette famille recomposée, c'est ce qui va lui permettre, secondairement, d'arriver à une deuxième étape de l'acquisition. L'acquisition de la culture, l'acquisition du désir. Elle va, c'est un mot qui m'est cher, elle va oser vouloir choisir sa vie. Et ça n'est pas elle qui a décidé d'être élevée par une famille humaine aimante, naturellement. Et là, elle est passive. Mais d'être dans une famille humaine aimante lui permet d'avoir les outils pour oser vouloir choisir sa vie et construire cette vie-là.
Et de cela naît toute une série de réflexions. Lorsque vous parliez tout à l'heure de ce qui vaut à Dewey le prix Nobel, puisqu'elle l'obtient, ses recherches, c'est votre espoir à vous ?
Non, je dois reconnaître que Dewey m'est très supérieur. Non, mais elle est très supérieure. D'abord, elle est femme. Des fois, je regrette de ne pas l'avoir été. Mais ça, c'est une plaisanterie, mais ce n'est pas totalement faux. Mais parce que je l'ai conçue comme cela. Il y a quelque chose, d'un point de vue purement romanesque, puisqu'il y a une partie romanesque, il y a quelque chose qui peut choquer en disant « elle est trop parfaite ». Il y a quelque chose d'irréel. Je la divinise. La brillante Dewey. J'en deviens progressivement amoureux et j'espère que les lecteurs en deviendront touche après touche, page après page, également amoureux. Mais cette perfection est presque inhumaine. Mais cela est lié à la prévision de l'épilogue, où d'une certaine manière, dans la souffrance, elle va se réhumaniser par la reconstitution d'une unité gémellaire.
C'est une réflexion. Je le disais tout à l'heure sur le sens de la vie, sur les âges aussi de la vie, sur le quantitatif, le qualitatif, par exemple sur la société de l'information, de la communication, sur ce que vous appelez la stratégie totalitaire des groupes informatiques, sur la notion du travail, qui aujourd'hui est devenue une norme sociale qui, lorsqu'on en manque, conduit à l'exclusion
sociale,
à l'anonymat. Votre livre, c'est cela aussi.
Mon livre, vous savez, ça n'est pas pourtant une encyclopédie, mais bon, c'est à vous d'en témoigner ou pas. Mais en fait, j'y ai mis tout ce qui me semble essentiel.
Oui, j'en témoigne d'ailleurs.
Pour vivre.
Oui.
Tout ce qui me semble essentiel. Est-ce que le plaisir physique et l'amour est essentiel pour vivre ? Oui, j'en parle.
La beauté.
Voilà. Est-ce que l'appréhension de la beauté est essentielle ? J'en parle.
Qu'est-ce que la
Est-ce que le contact avec l'animal est essentiel ? J'en parle. Est-ce que pour moi, marcher est essentiel ? J'en parle. Est-ce que le métier est essentiel ? J'en parle. Est-ce que, etc., etc. C'est-à-dire qu'ensuite, j'essaye, à travers la destinée de Dewey, d'aborder tout ce qui me semble pertinent pour être humain pleinement. Alors, je voudrais m'expliquer, car on pourrait m'en faire la reproche sinon, sur le pleinement. Est-ce que Eka n'est pas humaine? Si Eka est évidemment humaine, elle a un génome humain. Ce serait dramatique de dire qu'Eka n'est pas humaine, parce que ça justifierait l'eugénisme nazi qui tuait les attardés mentaux, les gens ayant un retard cognitif, au motif que c'est la raison qui fait l'humanité et que des êtres sans raison méritent d'en être retranchés. Elle est humaine. Mais évidemment, elle n'épanouit pas toutes les potentialités pour lesquelles code ce génome humain. Donc, être humain, virgule, pleinement.
Oui, je vais vous interroger par rapport à ce que découvre dans le domaine de la médecine, Dewey, qui lui vaut un prix Nobel. Ce sont des choses extrêmement importantes sur la maladie d'Alzheimer, sur, vous le disiez, la tétraplégie, etc. C'est, là, je vous interroge, c'est votre espoir, ce qui parle.
Alors ça, c'est possible. Il est possible, en effet, qu'une recherche de l'ordre de celle que je présente soit menée. Certaines des prévisions, certains des résultats même que je prête à des oui, ont déjà été obtenus par d'autres équipes scientifiques. La médecine régénératrice, ça n'est pas la panacée permettant d'éviter de vieillir, d'avoir un infarctus du myocarde, de perdre la mémoire encore. Mais ça n'est plus seulement un espoir. C'est une méthode thérapeutique dont les potentialités s'améliorent année après année. Donc, il y a toujours dans ce livre une oscillation entre la partie totalement romanesque, fictionnel, et puis un ancrage à ce que l'on peut dire de la réalité qui est très exigeant. Je suis tout de même un scientifique, un grand rationaliste.
C'est aussi repenser l'avenir. Et là, par exemple, prenons l'exemple du travail, hein, la norme sociale du travail. On sait, dans un certain nombre de pays, le nombre de chômeurs, de gens sans travail. Et quelque part, ça c'est mon point de vue personnel, quelque part on feint de dire « mais demain il n'y aura plus de chômage », alors qu'on sait pertinemment qu'il faut repenser notre relation au travail, qu'il n'y aura plus assez de travail tel qu'on l'entend aujourd'hui pour tout le monde.
C'est une absolue évidence. Aujourd'hui, il y a un décalage dans les discussions. Avec l'extraordinaire développement de la robotique, de l'intelligence artificielle, bien entendu, d'abord les objectifs se modifient, mais bien entendu, le besoin en travail manuel, et même à terme, le besoin en travail intellectuel, parce que l'intelligence artificielle progresse elle-même, elle apprend elle-même, décroîtra. Et la question de la place du travail dans la vie humaine devra tôt ou tard être reposée. Tôt ou tard. D'ailleurs, on vit une révolution qui est, de ce côté-là, absolument fantastique, avant tout lié, pas à la biologie, hein, avant tout lié à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, la triade fameuse, les big data plus les algorithmes plus l'intelligence artificielle.
Analyse prospective.
Voilà. Prenez un exemple, l'analyse prospective. Prenez un exemple, je ne l'ai pas abordé comme ça dans le livre, mais justement ça permet d'ouvrir un peu. Prenez un exemple de l'économie participative. Uber, Airbnb, etc., etc. Au départ, Wikipédia en est un exemple, le partage. C'est-à-dire qu'on est parti jadis, depuis très longtemps, depuis le néolithique, on est parti avec l'idée qu'une tâche particulière devait être confiée à des gens qui acquéraient les compétences pour la faire. Le médecin apprend longuement à faire la médecine, etc., etc. Et puis, avec ces nouvelles techniques, il apparaît que si on remplace la compétence d'un petit nombre de personnes par la possibilité de réunir les bribes infinitésimales de compétences de la multitude, alors on peut avoir la même chose. Mais c'est simplement les bases de toute l'éducation, de tout le sens d'une vie qui est reposée. Les révolutionnaires en 1793 en France avaient, sur cette argumentation-là, supprimer les facultés de médecine. Les médecins étaient tellement sots à l'époque que ce n'était pas tout à fait faux. Ils avaient dit, écoutez, les citoyens moyens devraient ensemble savoir faire aussi bien que médecins qui sont foncièrement incompétents. Et puis, Napoléon a rétabli les facultés de médecine. Mais demain, le problème se posera. Les robots opéreront mieux que n'importe quel chirurgien. Les machines feront un diagnostic beaucoup plus sûr que n'importe quel médecin. Et de fait, le métier lui-même va être soumis à une révision fondamentale, et c'est vrai de tous les domaines. Et donc, si on ne repense pas et la place de l'homme par rapport à son activité et à son activité professionnelle, on va être très désemparé dans quelque temps, très désemparé.
Vous savez qu'en Suisse, on a voté et refusé d'ailleurs ce qu'on appelle le revenu universel.
J'ai suivi parce que tout ce qui se passe en Suisse m'intéresse beaucoup.
Ok.
D'ailleurs, bon, c'est une autre question, mais...
Mais elle est liée au
fait... Je préférerais de loin, compte tenu de ce que sont au moins en transition, je préférerais de loin une solution qui serait de partage d'un travail auquel un temps de plus en plus limité serait consacré, plutôt que l'instauration d'un revenu universel qui séparerait dans la société ceux qui touchent un revenu et ceux qui créent les conditions économiques pour qu'ils touchent un revenu qui serait incroyablement inégalitaire in fine. Voilà, si nous discutons, je vous dis, car moi aussi c'est un propos et un problème qui me concerne beaucoup, je préférerais que l'on réfléchisse dans cette direction-là d'un vrai partage du travail, le travail occupant une place dans une vie d'homme.
Votre métier, lui aussi, a beaucoup changé. Il y avait une grande part d'ingéniosité.
Oui, alors ça, c'est lorsque je traite de cet autre bouleversement. Je vais donner deux exemples rapides. L'un des généticiens et l'autre de président d'université. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, on disait, isoler un gène, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Et le plus ingénieux, le plus intelligent, le plus astucieux arrivait, sans trier brin par brin la meule, ce qui était très long, arrivait effectivement à détecter l'aiguille dans la meule de foin. C'était extrêmement bien. La prime au plus subtil. Aujourd'hui, c'est fini. La machine, elle trie brin par brin en une heure et demie. Et donc, la subtilité est totalement dépassé. C'est le triomphe total du quantitatif sur le qualitatif. Dans l'université que j'ai présidée, il y avait évidemment aussi une faculté de sciences humaines et sociales, on formait des sociologues. Je me suis trouvé devant un grave problème. Jadis, l'un des débouchés des sociologues, en dehors de la recherche et de l'enseignement, ils ne peuvent pas tous faire de la recherche et de l'enseignement, l'un des débouchés, c'était de faire pour les firmes des enquêtes. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut... proposer aux femmes enceintes comment, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs pulsions, leurs mécanismes mentaux d'achat. Aujourd'hui, ça, c'est totalement fini. Comment, c'est ce qui se passe, hein, comment les grands géants du recueil des big data, avant tout Facebook et Google, font? Eh bien, à partir d'un millier ou deux milliers de femmes, on sait comme ça, parce que la confidentialité n'existe plus, qu'elles sont enceintes. On sait tout de ce qu'elles font, à quelle heure elles se lèvent, à qui elles téléphonent, où elles vont, où elles déambulent, les sites qu'elles regardent, etc., etc. À partir de ça, on fait un algorithme. On l'applique à la totalité de la population. 98% des femmes qui correspondent à cet algorithme sont enceintes et elles reçoivent le démarchage pour la grossesse. Alors, quoi proposer à mes diplômés en sociologie? C'est un problème quand même.
Alors ça, ce que vous dites en ce moment et ce que vous écrivez...
C'est vrai, hein, c'est la fabule, oui. Pas du tout, là.
Non, mais ça menace être humain pleinement?
En tout cas, ça, je ne vais pas dire que ça le menace, mais il est sûr que c'est un défi supplémentaire. Je veux dire qu'il va falloir, y compris, s'adapter à cela. Il est certain que la manière dont on aura à tracer ce sillon va... devoir être différent de ce qu'elle était depuis quelques milliers d'années, si je me réfère en particulier à la place particulière de la compétence.
Olivia Guérig, revenons à vous, à Impasse Khmer, à Encre Fraîche. On le disait, j'allais dire, hors antenne tout à l'heure, lorsqu'on s'est rencontrés, ce qui m'a d'abord frappé dans votre roman, dans ce récit, c'est la place qu'occupe dans cette société partagée entre finalement mélanger le passé, les temples d'Angkor par exemple, et aujourd'hui, c'est le silence.
Oui, ben, c'est ce qui m'a vraiment frappé, c'est le silence et le sourire des gens, encore aujourd'hui quand on y va, alors qu'ils ont vraiment vécu un traumatisme. Donc ils n'en parlent pas. C'est comme si une page avait été tournée. C'est une sorte de... Il y a certains témoins qui en parlent, mais ils sont plutôt rares. Les gens qui n'en parlent pas, qui choisissent de ne pas en parler, parce que la blessure est encore trop vive, même si ça remonte à une trentaine d'années, c'est 40 ans. C'est ce silence, en fait. Et cette acceptation, c'est ce qui m'a énormément frappée.
Et comment votre personnage, Julia, s'arrange avec ce silence ? Qu'en fait-elle ?
Je ne sais pas. C'est difficile de... Elle essaye de ressentir en fait, ce que ce silence veut dire. Parce que parfois, le silence est plus éloquent que justement la parole ou l'explication.
Mais dans un premier temps, donc, elle est surprise, évidemment. Elle est étonnée, comme vous l'êtes en ce moment. Ouais. Après, elle y pense. Elle s'est exprimée dans votre livre.
D'où vient ce silence ?
Oui.
Comment peut-on rester silencieux face à un destin tragique ? Ouais, elle essaye de comprendre. Je ne sais pas si on... C'est justement en essayant d'écouter les gens, en essayant de comprendre leur culture avec notre regard, parce que c'est aussi notre regard qu'on porte sur une attitude, ce que nous, on a appris, justement, par rapport à la capacité d'adaptation aussi. Mmh. Parce que moi, ça m'a beaucoup frappée. Je pense qu'on va tous être obligés de s'adapter. Et donc, cette population-là a choisi de survivre, parce que c'est vraiment ça, c'est survivre à un traumatisme vraiment très, très profond, parce qu'aujourd'hui, donc, des bourreaux habitent comme en tant que voisins avec des victimes, et ils cohabitent. C'est de la survie. C'est vraiment ça. Et le silence est un moyen de survivre, de s'adapter.
Oublions votre personnage à l'instant, parlons de vous. Vous êtes allé au Cambodge. Combien de temps y avez-vous séjourné ?
Ben, en tout, ça faisait à peu près 3 mois. Je suis allée pour deux missions différentes, en fait. Voilà. C'est très court, hein, mais ça, c'est vraiment un des séjours qui m'ont profondément bouleversée.
Ce qui vous a touché en arrivant, par exemple ? Ce qui vous a bouleversé ou touché ?
L'accueil,
l'accueil des gens,
la gentillesse des gens. Et justement, le fait qu'ils parlent très difficilement de ce vécu. Ça arrive après plusieurs semaines. Bon, en plus, moi, c'est vrai que la femme a une position un peu particulière dans la société cambodgienne.
C'est-à-dire ?
C'est quand même une société assez traditionnelle. Et donc, la femme, la place de la femme, elle travaille beaucoup. Elle s'occupe des enfants. Mais en même temps, elle n'est pas totalement égale à l'homme. Donc voilà, il y a des réflexes que nous, en tant qu'occidental, on a, qui sont mal perçus au Cambodge.
Alors vous avez ressenti, vécu tout cela ?
Oui.
Vous êtes revenu à Genève ?
Et j'ai eu besoin d'écrire. C'était vraiment... j'avais besoin de mettre sur papier toutes ces émotions, parce que je pense être quelqu'un d'assez sensible. Donc j'avais... Il y avait d'un côté cette première mission humanitaire sur le terrain, qui était quand même un choc, parce que même si c'est justement on est accueilli avec le sourire, il y a tout ce poids qu'on a besoin aussi de partager, je pense. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément formé à être confronté à cette réalité-là. Parce que on est nés ici.
Ici, oui.
Donc... voilà, on n'est pas confronté à cette société, à cette façon de vivre aussi, aux défis qu'eux, ils ont, parce que la plupart des Cambodgiens, aujourd'hui, leur premier souci, c'est quand même encore de manger. Mmh. Même s'il y a une évolution très, très rapide de la société actuellement, il y a quand même de la corruption et beaucoup de choses. Et le silence se retrouve aussi aujourd'hui par rapport à la politique, en fait.
Bon, il faut rappeler que les procès ne sont pas terminés, cela étant.
Il y a très peu de criminels qui ont été jugés.
Mais ils ne sont pas terminés. Il y a encore des procès, normalement. Riti Pan en a beaucoup parlé. Elle a fait des films assez remarquables, sur cette question du génocide khmer. Votre personnage, pourquoi est-ce qu'il quitte Genève ?
Parce que le personnage a vécu une situation familiale et une expérience personnelle très difficile.
Amoureuse ?
Oui, amoureuse.
Oui, soyons clairs, oui.
Oui, et aussi familiale, on va dire. Ça, vraiment une descente aux enfers, en fait, par rapport à certaines choses qui ne lui convenaient plus dans cette vie ici.
Et vous aviez besoin d'inventer cela pour...
Pas trop.
Pas trop, ok. Point de suture, vos deux personnages. L'un vit donc aux États-Unis, il est écrivain ou il va devenir écrivain. L'autre est photographe, il vit en Europe. Ça fait 25 ans qu'ils ne se sont pas vus. Vous nous les présentez un peu, je veux dire, à quoi ressemble Rémi, par exemple?
Donc Rémi est l'aîné, ouais. C'est le peintre photographe. Donc il faut imaginer un solide gaillard qui... Mais après la rupture, après le divorce et la séparation d'avec son frère, va essayer tant bien que mal de poursuivre son développement, tout en sachant qu'il sera privé de ce rapport à l'autre et ce rôle de grand frère, d'être qui ouvre la voie pour le plus jeune. Du coup, il va se réfugier aussi. Ça va partir. Il avait déjà des capacités artistiques qu'il explorait, disons, avant la séparation.
Le fameux Joker.
Voilà. Il y a un tableau qui les réunit, oui. En fait, qui est en fil rouge de tout le récit, qui revient par touche, comme ça, qui ouvre le récit, qui le ferme. Le seul, finalement, acte commun qui survit à la séparation. Donc, il faut imaginer cet être humain, Rémi, qui grandit, qui parfait ses connaissances artistiques, qui se développe, qui explore, parce que l'art est un terrain d'exploration, enfin, la vie est une exploration constante, et qui va faire ses études, et après voyager, monter ses projets, tout en gardant, le fantôme de cette relation déchirée. Il va épuiser dedans. Et puis, puis Arthur, c'est un développement à peu près pareil. Mais si le grand frère exprime plus facilement sa rage, le petit frère, elle va l'intérioriser beaucoup plus. Il l'exprimera d'une autre manière. Au moment de l'adolescence, quelques menus larcins, une révolte qui va... Il va essayer d'expulser ce mal-être, en fait, par différentes activités. Moralement, peut-être discutable, mais... Donc, il va se construire et il va aussi trouver... une certaine sérénité en écrivant, parce que je conçois personnellement et je pense que c'est pareil pour pas mal d'auteurs. Je pense que si on écrit, c'est aussi parce qu'on est écorché. Enfin, la littérature, c'est une affaire d'écorché, de sensible, de grand sensible. Donc, voilà.
Il est dit quelque part dans votre roman que l'art sauve. C'est ce que vous pensez?
Et je pense que la création artistique est un formidable producteur de liens humains. On touche pas à la raison, on touche vraiment à l'émotion, au cœur, aux tripes. L'art est multiple, il peut prendre diverses formes, mais il peut dénoncer, il peut rapprocher, mais il crée toujours une réaction. Donc un point d'accroche pour potentiellement soit débattre, soit échanger sur des émotions vécues, que ce soit après la lecture d'un livre, après avoir vu un film, devant un tableau, devant une photo, en écoutant de la musique aussi. On ressent.
Dans vos deux livres, aussi bien Un passe Khmer que Point de suture, il y a une forme de rythme qui est installée dans votre livre à vous, Olivier Guérig, par des citations d'un certain nombre d'auteurs, Jean Anouilh, Shakespeare, je ne me souviens plus très bien, mais j'en ai lu beaucoup là pour cette rencontre à Morges. Et chez vous, alors, d'un chapitre à l'autre, il y a une sorte de rupture et on retrouve, on ne sait pas très bien si c'est le narrateur, si c'est un psychiatre, si c'est vous. par rapport à ce qui est dit dans le chapitre, tout d'un coup, il y a une voix, comme ça, dans le livre, qui interroge finalement le narrateur.
Oui, bah, c'était une manière de couper le récit, de mettre deux niveaux sur, de mettre le récit sur deux niveaux. En fait, c'est un journaliste qui interroge le narrateur sur le vécu, puisque il y a une mise en abîme du roman, et c'est une manière de frontalement poser des questions et finalement, oui, pour Arthur,
oui,
le narrateur qui répond, d'expliquer sa démarche aussi, peut-être d'une autre manière.
Et on sent, je vais pas en dire davantage, mais on sent que cette démarche a été pour le narrateur à un certain moment plutôt douloureuse.
Oui, dans ce cas-là, elle était douloureuse pour le narrateur. Libératrice pour l'auteur, sûrement aussi.
Axel Kahn, être humain pleinement, c'est, comment dire, c'est essayer d'envisager un monde meilleur ou parfait?
Sûrement pas. C'est à la fois pas cela, et à la fois c'est ne pas accepter le monde qui ne l'est pas, meilleur et parfait. Et mon héroïne, moi-même, avons une réflexion sur le statut de la révolte. Mmh. Je tente de répondre à la question, est-il possible d'être humain pleinement sans se révolter? J'ai tendance à penser que non, car cela voudrait dire que nous nous résignons à un monde qui, par tant d'aspects, est loin d'être idéal à l'épanouissement de chacun. Personne ne me reprendra si je dis que le monde n'est pas le monde idéal pour l'épanouissement du plus grand nombre. On a parlé de la situation des Khmers, mm-hmm, de ce qui s'est passé, et l'on pourrait aujourd'hui, dans l'actualité, citer maints exemples réellement de cela. Donc, face à cette difficulté pour l'épanouissement de chacun, la révolte est légitime. Elle est une manifestation d'humanité. Mais à partir de là, et c'est la raison pour laquelle je vous ai répondu négativement à la première réponse, à partir de là, si jamais pour créer un monde meilleur, un monde parfait, dont la fin me semblait tout pouvoir justifier, j'instituais un système contre lequel les autres auraient toutes les raisons de se révolter, alors ma révolte perdrait toute légitimité. La révolte est légitime, mais in fine, c'est là où elle est le plus indiscutable, à hauteur d'homme. La révolte du docteur Rieu, dans La Peste de Camus, qui ne se révolte pas contre le fléau de Dieu, contre la punition envoyée aux hommes, contre un être maléfique qui tue les Oranais en quarantaine. Non, il se révolte contre la situation imposée à chaque homme atteint par cette maladie, homme après homme. La révolte à hauteur d'homme. Évidemment, cette révolte à hauteur d'homme, pour faire le lien avec les livres des autres auteurs, c'est aussi celui qui se manifeste de la part de toutes les personnes qui s'engagent dans l'humanitaire, dans Handicap International, dans Médecins du Monde, dans n'importe quoi, qui, à un moment donné, il y a eu un temps pour tout, mais eux, c'est une manière de se révolter. Est-ce que c'est acceptable, cela? Non, c'est pas acceptable. Et donc, est-ce que l'on peut tout faire? On ne peut pas tout faire. Mais il faut oser vouloir faire. Et au départ, cette révolte à hauteur d'homme.
N'avez-vous pas le sentiment néanmoins que nous sommes dans un monde qui oppose moins de résistance que par le passé? Nous sommes presque de la même génération.
Oui, c'est sûr. Et nous avons connu cela. Et c'est la raison pour laquelle le mot d'ordre qui surplombe mon livre est oser vouloir. Je voudrais vous rappeler, vous le savez vous, mais aux gens qui sont dans cette salle et à mes jeunes collègues, je voudrais rappeler d'où vient cette injonction, oser vouloir. J'ai été, du fait de ma carrière, c'est comme ça, le parrain de très nombreuses promotions de ce qu'on appelle les grandes écoles en France, l'école polytechnique, HEC, etc., etc. La plus grande partie des grandes écoles, j'ai été le parrain de promotion, promotion 2000 des polytechniciens, etc. Et j'étais un peu cruel avec eux parce que je leur demandais initialement, et d'ailleurs en tout bien tout honneur, je pensais pas à mal, je leur disais, vous êtes des jeunes femmes, des jeunes hommes remarquables, vous avez surmonté toutes les difficultés, vous avez des diplômes, et donc vous avez tous les moyens de mieux gouverner votre vie, mais également, compte tenu des positions hiérarchiques que vous aurez, de mieux agir en faveur du monde que vous désirez. Ce dernier pouvoir à ce propos, que voulez-vous en faire? Et en règle générale, ce qui répondait à cette question était une hésitation consternée. Car il ne s'était jamais posé la question, à dire vrai. Et pour quelle raison ne s'était-il jamais posé la question? C'est pour la raison que vous venez de résumer par votre question, cher monsieur. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que de toute façon, ils ne peuvent rien. Et quand on ne peut rien, on ne résiste plus. On est comme le bouton de liège dans le courant. Le bouton de liège bouge naturellement, il peut surnager, il ne peut pas s'opposer au courant. Et c'est la raison pour laquelle, ayant écrit avec Albert Jacquard un bouquin qui s'appelle « L'avenir n'est pas écrit »,
oui,
je dis « Écoutez, l'avenir n'est pas écrit, osez vouloir l'écrire, c'est pas sûr que vous y parveniez. Mais si vous essayez, vous-même et le monde seront différents de ce qu'ils eussent été si vous vous étiez résigné. »
C'est la question du monde, le monde est fini?
Le monde est sans doute fini, mais nous n'avons pas à nous en préoccuper. Nous avons à nous préoccuper d'un monde infini dans lequel doit s'inscrire notre action humaine qui, elle, est finie. Mais évidemment, si vous voulez inscrire une action finie entre la naissance et la mort dans une société qui, elle-même, est finie, ça devient absurde, car de toute façon, la notion même de liberté, de libre arbitre, disparaît. Donc le monde sur lequel j'ai à agir, je le considère comme s'il était infini, mais je sais que ce que je fais, ce que j'oserais vouloir faire, c'est entre un moment, un peu après ma naissance, et un moment, un peu avant ma mort, que je dois le faire. Je dois oser vouloir le faire.
Avant d'ouvrir la discussion avec vous, durant quelques minutes, cette question à tous les trois, là je vous l'emprunte à votre livre, à qui devez-vous cette, sans doute à vous évidemment, mais sur le fond, cet ardent désir d'écrire?
C'est un ardent désir de créer. Je vous ai suivi tout à fait. Quand vous considérez, je parlais tout à l'heure du succès du massivement quantitatif sur le qualitatif. Il y a heureusement une tranche d'hésitation. Par exemple, mes algorithmes pour savoir qui est enceinte, il y a 2% d'erreurs. Mais est-ce qu'en réalité, toute l'humanité ne résiste pas dans ces 2% d'erreurs? Est-ce que ce n'est pas dans ces 2% d'imprévisibilité que réside toute la créativité et l'originalité du monde? Est-ce que ce n'est pas dans ces 2% que réside le meilleur de l'œuvre elle-même? Et si vous voulez faire humanité, il faut à un moment donné que vous soyez capable d'envisager, espérer, réarranger le réel tel que vous l'avez perçu pour créer, faire apparaître ce qui n'allait pas de soi, qui vient de votre originalité, même si elle s'exprime à sa marge. N'avoir pas ce désir-là, ça n'est pas être humain pleinement quand même.
Olivia, sur ardent désir d'écrire, en un mot.
C'est aussi s'exprimer, faire passer un message... Et j'abonde dans le sens de la révolte, en fait. Ça m'a beaucoup touchée, parce que L'homme révolté est un ouvrage d'Albert Camus qui m'a poussée à écrire, justement. Et voilà.
Merci de le rappeler, Florian.
C'est déjà l'amour pour la lecture. C'est la lecture a nourri l'envie d'écriture. Et c'est, comme je dis, c'est quelque chose de... qui vient pas de la tête, mais plus du cœur et des tripes. C'est l'envie d'exister d'une certaine manière en faisant entendre sa voix, peu importe que ça touche 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes ou 200. Enfin, mais c'est une manière de s'accomplir personnellement et si ça peut toucher des gens autour de moi, un cercle restreint, voire plus large, je suis heureux. Mais je conçois aussi la littérature. Je ne veux pas, au travers de mes romans, apporter des réponses. C'est poser des questions, faire entendre une voix. Parce que nous avons tous une voix et je pense que chacun, après, explore son propre chemin pour s'exprimer du mieux qu'il peut.
Axel Kahn, que dit votre sourire ?
Non, je suis d'accord avec presque tout sauf un point. C'est qu'un créateur qui n'aurait pas l'espoir que sa création puisse enrichir les autres serait bien singulier. Ce serait un chercheur qui prendrait la décision de ne jamais publier ses résultats. Ce serait un peintre qui enfermerait ses peintures dès qu'il a peint ses tableaux dans un coffre-fort. Il y a évidemment de l'échange également dans la création. Alors, il y a une incertitude, mais il y a toujours l'échange. Il y a toujours le désir de communiquer, d'apporter. Oui.
C'est mon côté modeste, peut-être.
Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous souhaitez intervenir ? Oui, il y a des micros dans la salle, je crois, monsieur, et ensuite madame.
Oui, j'aimerais poser deux questions qui viennent principalement de monsieur Kahn, mais j'aimerais bien les poser aux trois intervenants. J'aimerais savoir si l'héroïne du conte philosophique de monsieur Kahn n'avait pas eu le prix Nobel, est-ce que la thèse aurait été moins belle et moins forte ? Imaginons qu'elle ait été, par exemple, bénévole à la manifestation du livre sur les quais, est-ce que la démonstration serait moins forte ? Et du coup, c'est ma deuxième question, parce que c'est un peu pesant, hein, le Nobel comme signe de prévalence de l'acquis. Et du coup, est-ce que vous ne faites pas, finalement, une éloge de l'inné ? Comment on peut expliquer ce prix Nobel ?
Très rapidement, non, mais si vous lisez le livre, vous le verrez, puisque je dis exactement cela. J'ai voulu, si vous voulez, outrer le trait. C'est l'objectif de toute caricature. Donc, l'opposition absolue, inné et acquis, une femme prodigieuse, une enfant malheureuse avec un retard mental, etc., etc. Mais dans tout le livre, j'indique bien et j'insiste sur le fait que, bien entendu, ce type de réalisation-là n'est pas la condition sine qua non de l'utilisation de l'adjectif pleinement. Je laisse là.
Madame ?
Qui c'est qui avait encore une question ? Oui, Annie. Madame, qui c'est qui avait une question ? Un monsieur. Mettez bien le micro.
Excusez-moi, je ne vous ai pas distingué là, monsieur.
Oui, c'était mes cheveux.
C'est peut-être vos cheveux, oui.
Je vous remercie beaucoup de ce savoir que vous m'avez apporté, monsieur et madame. Et je reviens un petit peu en arrière par rapport à la notion du travail. Je ne vais pas m'étendre énormément, mais je me réfère un petit peu à Montaigne et la théorie des climats, n'est-ce pas ? Est-ce que la notion de travail est innée ou acquise ? Est-ce que nous ne sommes pas paresseux ? Nous ne créons pas des instruments pour devenir de plus en plus paresseux ? Et où cela peut nous mener ? Voilà ma question.
Merci.
Oh, peut-être que chacun d'entre nous a un élément de réponse, puisque j'ai abordé le problème du travail. Durant 1 800 000 ans, l'homme n'a pas travaillé au sens où on l'entend. L'homme a assuré sa subsistance. Le chasseur-cueilleur ne travaillait pas. Il s'arrangeait pour avoir de quoi boire, de quoi manger, de quoi se vêtir, et de quoi bâtir sa maison. Il faisait, après tout, comme les carnivores qui chassent et comme les herbivores qui broutent. Donc non, il n'y a pas de déterminisme. Il y a un déterminisme génétique à ne pas mourir, à persévérer dans son être, disait Spinoza. Et ce qui est intéressant, c'est pour quelle raison la société a créé une situation telle que travailler devenait indispensable pour persévérer dans son être. Mais ça n'est pas inné.
Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se sépare, Olivia ?
Par rapport au travail ou...
Oui.
Je pense qu'en plus, aujourd'hui, la société accorde aussi une valeur plus importante aussi par rapport au statut social, au travail. Il n'y a pas seulement parce qu'il y a une vision aussi de réalisation de soi qui n'avait pas auparavant et qui est en train de repartir, en fait. Avant, justement, c'était juste pour subsister qu'on travaillait. Enfin, et aujourd'hui, on recherche encore autre chose dans le travail.
J'ajouterais juste qu'il faut, personnellement, je pense qu'il ne faut pas non plus penser à se réaliser que dans le travail. C'est très important aussi de se réaliser hors du cadre du travail.
Je vous remercie beaucoup. Je rappelle Point de Suture, Florian Séguessère, donc chez Olivier Moratel, Impasse Khmer, Encre Fraîche, oui. Olivia Guérig, et Être Humain Pleinement chez Stock. Alors, très très rapidement, parce d'accord, qu'après, il y a une conférence qui vient. Oui, et ensuite, fait. Les trois auteurs, vous pouvez les retrouver sous la tente pour des dédicaces.
Oui, mais je voulais en faire profiter tout le monde. Alors, je vous posais la question par rapport à. Vous devez parler de l'humain et de la beauté. J'aurais voulu que vous étendiez un tout petit peu plus sur la beauté.
Pour moi, il n'y a pas d'humanité sans part nécessaire et suffisante laissée à la beauté. La beauté, alors on ne le sait pas exactement, mais il y a un phénomène très curieux. Je vous disais que le chasseur-cueilleur avait commencé à chasser et à cueillir depuis 2 millions d'années. Il y a 1 800 000 ans, donc très peu après la phase d'Homo habilis, l'homme s'est mis à développer les outils, comme monsieur le disait, pour augmenter sa puissance simplement, s'est mis à développer des outils auxquels il a conféré une perfection formelle que ne nécessitait en rien l'usage auquel il les réservait. Et on a toutes les raisons de penser qu'il a ressenti une certaine satisfaction à cette perfection formelle. Si c'est vrai, il avait une appréhension à projeter cette notion de beauté qui lui procure effectivement un sentiment agréable. Donc si c'est vrai, la beauté est un signe très précoce de l'humanisation. Ensuite, l'émotion partagée par rapport à ce qui est considéré comme beau fait société. Or, comme je l'ai dit, ce qui fait société fait également humanité. Très tôt, à travers l'échange des biens, une partie importante de l'échange des biens a considéré les biens de prestige et les biens, entre guillemets, culturels. Il y a 70 000 ans, par exemple, on a la preuve pratiquement d'un commerce. On trouve un commerce entre des coquillages percés, sans doute pour des colliers, pour les hommes ou les femmes de l'époque, et puis autre chose, à l'intérieur des terres. Il y a des groupes humains qui vivent au bord de la mer, qui ont les coquillages, il y en a d'autres qui leur échangent, je ne sais pas quoi, de la viande, des haches, je ne sais pas quoi, et il y a véritablement un échange. C'est ensuite un élément de stratification sociale. Et puis, c'est la possibilité de ressentir ces moments dans la vie, on en ressent quelques-uns parfois, de complétude absolue, où plus rien ne semble de nature à vous menacer, tant vous êtes totalement transporté par le délice où vous plonge un spectacle beau. C'est ce que l'on appelle l'expérience du sublime. Vous voyez que l'aptitude à ressentir la beauté et la nécessité de consacrer un temps nécessaire à cela, vraiment, c'est nécessaire pour être humain pleinement.
Axel Kahn, Olivia Guérig et Florian Séguessère, merci et merci à vous.
Merci.
Bonne fin d'après-midi.
Merci.